Et puis, nous allons ouvrir maintenant la deuxième partie de cette conférence de presse, la partie questions-réponses. Comme d'habitude, je vais vous demander d'éteindre vos portables, de le mettre sous silencieux afin de pouvoir échanger librement. Une fois n'est pas coutume, nous avons avec nous en direct de Lubumbashi des journalistes donc de Lubumbashi qui vont se mettre à l'écoute de cette conférence de presse et nous espérons que cela va leur donner du goût justement à participer très bientôt à cette conférence de presse de façon beaucoup plus active. Nous avons donc ce problème technique avec Goma et nous n'avons pas malheureusement avec nous le colonel Amouzou Kodjo Martel, le porte-parole militaire. Nous n'avons pas avec nous également le spécialiste des questions de droits de l'homme, le directeur adjoint du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme qui devait intervenir depuis Goma. Il s'agit de Monsieur Kofi Edem. Malheureusement, nous allons commencer donc cette session de questions-réponses sans eux. Nous espérons d'un moment les retrouver. Nous restons donc ici à Kinshasa. Nous n'avons pas tellement le choix et si les conditions techniques nous le permettent, nous prendrons bien évidemment une ou deux questions à Lubumbashi éventuellement, mais nous commençons ici, nous n'avons pas Goma en ligne, donc nous allons nous faire plaisir d'avoir une ou deux questions de Lubumbashi. Question donc ici, nous commençons par ma droite, une question, pas de volontaire, allez-y. Présentez-vous et puis une question, s'il vous plaît.
Merci. Moi, c'est Flavien Msens pour le compte des Planètes Télévisions. Monsieur le porte-parole AI, je reviens suite à la lettre ouverte adressée par le chef de l'État, par la société civile de Beni, Goma, Beni, Butembo et Rubero. L'interdiction des paiements de toute taxe de l'État suite au temps d'assassinats, au temps de kidnapping, autant de massacres, aussi l'interdiction de toute circulation des voitures des communautés internationales ainsi que de la MONUSCO. Quelle est la réaction de la MONUSCO suite à cette lettre? Merci.
La société civile devrait savoir que la MONUSCO et la société civile sont partenaires. Nous sommes partenaires contre qui? Contre justement ces groupes terroristes qui violentent les populations locales, qui traumatisent les populations locales, et cela est intolérable. Vous allez convenir avec nous. Nous avons toujours demandé l'appui de ces populations du Nord Kivu, du Grand Nord, pour nous aider dans la tâche justement qui nous est demandée par le Conseil de sécurité des Nations Unies de neutraliser ces groupes armés, et nous voulons vraiment l'appui de la société civile, l'appui des populations locales, afin d'avoir le renseignement qui est fort utile dans ce genre de combat. Le combat est militaire, c'est vrai, mais il n'est pas que militaire. Il est aussi un combat de renseignement, un combat, j'allais dire, d'acquisition de l'information utile pour permettre aux troupes au sol d'être beaucoup plus efficaces qu'elles ne sont à l'heure actuelle. Nous avons donc lancé, comme on l'a dit dans ce résumé de la situation sécuritaire, des opérations conjointes maintenant avec les FRDC que nous appuyons fortement avec un appui feu, avec un appui tactique des hommes sur le terrain. Nous avons renforcé notre présence militaire dans la zone pour neutraliser les ADF et nous voulons que les populations nous aident dans cette tâche. Nous pouvons réussir, mais nous devons réussir avec ces populations et non voir ces populations essayer de un peu compliquer la tâche des différents acteurs sur le terrain. Donc nous leur lançons un appel, au contraire, nous voulons qu'ils fassent partie prenante de cette situation sécuritaire que nous essayons de dénouer en leur faveur. Voilà un peu ce que nous pouvons dire à cette occasion. Nous passons peut-être à la gauche. Est-ce qu'on a une question? On a un micro? Bon, j'ai pas le micro moi. Et...
Merci. Kierman de l'agence congolaise de presse. Vous parlez de la reprise des opérations conjointes FRDC-MONUSCO, en quoi consiste cette reprise? Est-ce que ça ne sera pas le même credo? Parce qu'on ne voit pas exactement quels sont les événements qui ont marqué justement cette reprise des opérations conjointes. Quels sont les événements?
Les événements, c'est effectivement le ciblage des positions ADF dans le Grand Nord, que nous avons commencé à pilonner, non seulement avec l'artillerie de la MONUSCO, mais des FRDC, que nous avons commencé à pilonner aussi avec les hélicoptères d'attaque de la MONUSCO. Et comme j'ai dit, nous avons beaucoup plus de troupes maintenant au sol, aux côtés des FRDC, pour les appuyer dans cette action de reconquête, un peu, si vous voulez, de certaines positions ADF dans cette partie du Grand Nord. Cela, ce n'est pas l'heure des bilans déjà, mais nous pouvons dire que cela avance de façon positive et nous allons vous faire dans les prochains jours un bilan beaucoup plus détaillé des avancées que nous avons pu réaliser sur le terrain, des avancées avec les FRDC bien entendu. Et je peux vous assurer que les premiers journalistes que nous avons amenés sur le terrain, qui sont de Goma, malheureusement qui n'ont pas pu nous joindre à nous, ont pu voir d'eux-mêmes ce que veut dire la protection des civils sur le terrain. Ce n'est pas un vain mot pour nous et c'est vraiment, ça se traduit de façon concrète en action sur le terrain. Et nous allons envoyer, si la situation, parce qu'en temps, on nous disait que la situation avait un peu évolué, nous allons attendre le bon moment pour envoyer d'autres journalistes qui vont aller sur le terrain pour voir eux-mêmes ce que ça veut dire exactement ces opérations, bien sûr avec toutes les conditions sécuritaires qui doivent être réunies. Nous allons prendre peut-être une troisième question avant de nous rendre à Lubumbashi pour prendre peut-être une ou deux questions. Il faudrait que les journalistes de Lubumbashi qui veulent poser des questions se rapprochent du micro car nous savons que c'est un micro qui n'est pas unidirectionnel, c'est plutôt multidirectionnel, ce qui fait que le bruit d'ambiance peut être un peu fort. Donc nous prenons une question ici avant de nous rendre à Lubumbashi.
Toujours par rapport à Béni, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème par rapport à la définition de l'ennemi que vous avez à combattre, puisque vous dites les ADF et vous continuez de dire les ADF, alors qu'il y a plusieurs chercheurs, groupes d'experts, même des experts onusiens, qui parlent de groupes justement beaucoup plus compliqués que ça, et qui notamment accusent certains FRDC, et notamment le général Mundos pour le groupe d'experts des Nations Unies d'avoir même recruté des tueurs. Est-ce que vous en tenez compte et comment comptez-vous changer de stratégie puisque depuis un an et demi et plus ça n'a pas beaucoup avancé?
Depuis un an et demi justement la coopération conjointe FRDC-MONUSCO était interrompue. Avec l'arrivée de Mamane Sambo Sidikou, cette coopération militaire a repris, vous le voyez, et de façon effective sur le terrain dans la province, dans la province du Nord Kivu et particulièrement dans le Grand Nord. Et nous voulons pouvoir mener à bien ces opérations aux côtés des forces armées de la RDC. Pour ce qui est du rapport du groupe d'experts des Nations Unies, il ne s'agit pas, et bien évidemment, et vous comprenez, il ne s'agit pas d'un rapport de la MONUSCO. Le groupe des experts des Nations Unies est un groupe indépendant de la MONUSCO qui a ses conclusions, qui a ses remarques, et il faut qu'il les explique d'ailleurs à l'ensemble de la population. Nous savons d'ailleurs que c'est un rapport qui a été quelque peu qui est apparu dans la presse et qui n'est pas encore le rapport définitif officiel. Donc nous attendrons nous le rapport définitif officiel pour éventuellement avoir un point de vue dessus. Mais pour ce qui est vraiment des opérations, la stratégie que nous avons développée avec les FRDC sur le terrain continue. Vous avez entendu sans doute les porte-parole des FRDC qui annonçaient cette reprise des opérations conjointes sur le terrain. Je peux vous dire qu'il y a une combinaison d'actions sur le terrain aérienne, tactique, artillerie lourde et aussi des hommes sur le terrain qui appuient, qui prennent part à ces opérations de façon vraiment significative. La dernière fois que nous avons vu ce genre d'engagement de la MONUSCO sur le terrain remonte aux opérations contre le M23 et nous pensons que nous pouvons faire rapidement la différence sur le terrain, mais c'est un combat de longue haleine, on ne va pas faire la différence en un mois, deux mois. Vous savez que les ADF ont une tactique de se déplacer en petits groupes et à disparaître dès que justement l'appui-feu se concentre sur certaines positions, à disparaître dans la forêt. Nous allons continuer, en tout cas sans relâche, à les poursuivre et à essayer à les anéantir et à les neutraliser totalement. Nous allons essayer de partir donc à Lubumbashi pour prendre une première question. Je vous demande de vous présenter d'abord et de poser une question, une seule, et ensuite on verra si on peut prendre deux autres questions à Lubumbashi. Lubumbashi, c'est à vous.
C'est bon. Voilà, c'est Myris Mandjata pour Kyondo Radio-Télévision. Ma question est pour Florence Monchal, c'est par rapport à son rapport. Je voudrais demander quel est l'apport des Nations Unies d'une manière détaillée. Vous avez parlé de la baisse du taux des violations des droits de l'homme, droit à la liberté, droit à la vie. D'une manière détaillée, est-ce que vous pouvez nous donner cette information?
Bon, il faut dire que ce rapport devait être présenté par le directeur adjoint du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, Monsieur Kofi Edem, qui malheureusement pour des questions techniques n'a pas pu nous joindre depuis Goma pour présenter un peu les détails de ce rapport. Ce rapport est éminemment un rapport du Bureau conjoint, bien entendu. Nous n'avons pas dans la salle, malheureusement, un spécialiste. Ce que nous allons faire, nous allons envoyer, bien sûr, à Lubumbashi ce rapport détaillé. du mois d'avril sur les violations des droits de l'homme à RDC et on va vous les remettre, mais je crois que Florence a repéré la partie qui vous intéresse. Florence.
Oui, les violations des droits de l'homme documentées donc en avril 2016 ont été commises principalement dans les provinces du Haut-Katanga, donc je pense que c'était cette information que vous recherchiez, avec 20 cas, le Kasaï 7 cas et à Kinshasa 6 cas. Donc les violations les plus rapportées sont les atteintes au droit à la liberté et à la sécurité de la personne, les atteintes à la liberté d'opinion et d'expression, et ainsi aussi des membres de partis politiques et des professionnels des médias sont les principales victimes de ces violations. Ces violations sont celles qui sont liées à la restriction de l'espace démocratique sur l'ensemble du territoire congolais, hein, je le précise. Donc, quant à la restriction de l'espace démocratique, c'est dans la province du Haut-Katanga qu'on a eu le plus de cas au mois d'avril 2016.
Je signale que nous avons dans la salle un responsable de la communication de la représentation de la CPI en RDC pour d'éventuelles questions. Je crois qu'il y a aussi d'autres collègues du système des Nations Unies qui sont dans la salle et qui pourraient éventuellement répondre à d'autres questions. Lubumbashi, on reste avec vous pour une autre question.
D'accord. Merci. Prochaine question.
Oui, moi c'est Godlive Niemba du magazine La Guardia et j'aimerais bien revenir sur la dernière résolution 2277 de l'ONU qui a recommandé justement à la République démocratique du Congo de pouvoir organiser les élections conformément à la constitution du pays, mais en entretemps la Cour constitutionnelle a donné pratiquement les feux verts au président de la République de pouvoir rester en place. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation?
Nous ne commentons pas les décisions de justice. Nous pouvons ajouter, c'est que nous estimons simplement qu'au niveau de cette résolution 2277, on rappelle également que les délais constitutionnels doivent être respectés. Ban Ki-moon, lors de son passage en RDC, a bien insisté dessus et il a insisté aussi sur la nécessité de ce dialogue national qui doit déboucher sur une feuille de route consensuelle politique. Et je pense que tout cela devrait, si effectivement on pouvait avancer au niveau de ce dialogue, effectivement, tout cela pouvait quelque peu permettre une sorte de consensus politique sur la feuille de route prochaine dans le pays. Cela dit, une fois de plus, c'est pas à notre niveau que nous allons commenter les décisions de justice, car cela relève de la souveraineté nationale, et vous comprenez pourquoi. Nous allons revenir peut-être à Kinshasa ici en attendant de pouvoir repartir à Lubumbashi éventuellement en l'absence de Goma une fois de plus. On a un micro ici sur la droite.
Guy Oloum et RTNC de développement. Je voudrais poser la question à UEMAS. Quels sont les territoires congolais affectés par l'utilisation de mines et à quoi consiste l'apport de UEMAS pour les victimes civiles de mines, et quels sont les groupes terroristes qui utilisent beaucoup plus le mine? Merci.
Notre collègue de UNMAS, donc.
Merci. D'abord, je dirais que les territoires qui sont le plus affectés par la prolifération, non pas des mines, mais plus généralement tous les explosifs de guerre, les résidus explosifs de guerre, sont les territoires où il y a actuellement des conflits qui se déroulent, donc à l'est, mais également les territoires qui ont été l'objet de conflits passés, où des munitions et des mines ont été abandonnées, où des troupes étrangères ont séjourné. Quant à vous dire quels sont les belligérants qui utilisent plus communément les mines que d'autres, là je ne me prononcerai pas, je serai très général, et je vous citerai une phrase qui est assez historique dans l'histoire, dans le contexte du déminage. La mine, c'est le soldat le moins cher du monde. Donc, c'est-à-dire que tout groupe armé, quel que soit son niveau de moyens, aura tendance à utiliser des mines. Voilà.
Voilà, il s'agit bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, de Monsieur Bruno Bouchardi, qui est responsable donc du bureau UNMAS Kinshasa. Nous allons rester sur la gauche. Je vois une main d'une dame au fond là. Peut-être que on va donner la parole à une dame et ensuite on va aller sur la droite. Hein. On a vu votre main. Oui, une question s'il vous plaît. Ensuite on ira à Lubumbashi pour une autre question.
Merci. C'est Bibi Chibulenga pour le compte de Tropicana FM. Ma question est la suivante. La population de Béni demande à ce que la MONUSCO puisse libérer leur territoire. Ils accusent la MONUSCO d'avoir coopéré avec le groupe négatif. Quelle est votre lecture par rapport à ces sujets? Merci.
Il faut avoir une lecture vraie de la situation. À l'heure actuelle, les différents mandats de la MONUSCO sont très clairs. Mandat de neutralisation des groupes armés, mandat d'élimination sur la surface de l'est de la RDC de ces groupes armés. Nous ne pouvons pas collaborer avec ces groupes armés, c'est clair. Et notre action dans le Grand Nord, à l'heure actuelle, aux côtés des FRDC, parle d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, ces actions. Et donc, il faut être clair. Nous avons un mandat réellement de neutralisation des groupes armés. C'est ce que nous avons fait depuis longtemps. Le M23 a disparu de la surface. Le ADF et d'autres groupes suivront, c'est sûr. Cela prendra du temps, c'est vrai, mais nous sommes déterminés à les combattre. Et c'est ce que nous avons cessé de le faire depuis un certain temps. Nous montons en puissance les opérations aux côtés des FRDC, bien entendu. Et je vous donne rendez-vous dans quelques mois. Dans quelques semaines, j'espère, en tout cas pour faire le bilan, j'espère que vous ferez partie d'un voyage média à Béni pour voir de vous-même les résultats de ces combats-là, ou de cette opération. Nous allons passer à droite ici pour prendre une question, à moins qu'il n'y ait pas de question de main, s'il y a une main.
Roger Marley, Le Congo pour le journal Le Paris. Je reviens sur le même dossier de Béni. La sécurisation des populations n'est pas un vain mot. Il faut le voir pour s'en convaincre. Ces propos ne sont pas miens. Ils venaient d'être émis il y a quelques secondes par M. Charles Bambara. Mais s'il faut raisonner et simultanéo, c'est-à-dire simultanément, que peut-on dire alors des attaques perpétrées à Béni? Est-ce que les agents commis à la sécurisation des populations étaient distraits? Qu'est-ce qui a cloché pour que cette sécurisation n'ait pas lieu?
C'est pour cela que nous voulons vraiment envoyer de plus en plus les journalistes de Kinshasa dans le Grand Nord pour qu'ils se rendent compte de la situation. Les attaques sont beaucoup plus commises dans le territoire du Nord, dans le territoire de Béni, non à Béniville. C'est vrai que dans le passé, il y a eu des attaques à Béni, mais de moins en moins dans la ville de Béni, mais nous disons dans le territoire de Béni. Et donc ces attaques, comme vous le savez, chaque fois qu'il y a eu attaque, il y a eu tentative de riposte sur le terrain des FRDC, mais aussi de la MONUSCO. C'est un territoire qui est c'est un territoire forestier, c'est un territoire qui est difficile d'accès souvent, mais malgré cela, nos troupes essaient de se déployer aussi rapidement que possible sur le terrain pour apporter la riposte adéquate militaire suite aux différentes attaques que nous avons pu enregistrer sur le terrain. Nous allons continuer à le faire, et cette montée en puissance de cette opération qui s'appelle Oussalama dans le Grand Nord donc commence, comme j'ai dit, à porter des fruits, même si nous allons attendre l'heure des bilans pour vous donner beaucoup plus de renseignements. Nous allons continuer à combattre ces groupes armés aux côtés des FRDC, et nous pensons que petit à petit il y aura de moins en moins justement de violence dans ce territoire de Béni. C'est ce que nous souhaitons. Nous pensons que, comme j'ai dit, cette situation sécuritaire, l'amélioration de cette situation sécuritaire sur le terrain n'est pas un vain mot. Vous allez le comprendre après. Nous allons essayer de repartir à Lubumbashi avec votre permission, toujours en l'absence de Goma qui nous boude techniquement, j'allais dire, aujourd'hui. Lubumbashi, c'est à vous pour une question.
Deux questions, s'il vous plaît, pour terminer peut-être. Allez-y.
Christian Mouitaba pour la radio et télévision Héritage. Alors, ma question part de ce bilan que l'on entendait tout à l'heure par rapport aux questions des violations de droits de l'homme ici chez nous, sachant que nous sommes en train d'approcher vers décembre 2016, la date butoir pour plusieurs manifestations, en tout cas à en croire les propos des opposants. Ce que je voulais dire, c'est que c'est bien, ce rapport nous a amené à comprendre qu'il y a eu baisse de cette violence, mais le mois de décembre est en train de s'annoncer, si tout allait selon les propos des opposants, est en train de s'annoncer plutôt avec toutes les violations possibles, lorsqu'on sait que les manifestations sont gardées et contrôlées par la police. Dans votre rapport, vous êtes en train de dire que 52% de ces violations ont été perpétrées par la police nationale congolaise. Alors, la question, c'est celle-ci. Comment la MONUSCO compte-t-elle travailler avec la police nationale congolaise pour réduire sensiblement les violences, et surtout, comment la MONUSCO compte mettre sur pied des mesures préventives pour nous éviter ce que l'on pourrait qualifier de chaos qui est à venir?
Prochaine question, on enchaîne.
Non, on va répondre. Ensuite, on reviendra à vous. Peut-être quelques éléments de précision de la part de Florence.
Voilà, d'abord des éléments de précision. Et puis, j'imagine, Charles, que vous prendrez le relais sur les questions plus générales. Il ne s'agit, quand on dit que ce sont les agents étatiques, tout confondu, donc pas seulement la PNC, mais PNC, FARDC, ANR et autres autorités administratives qui sont responsables de 52% des violations des droits de l'homme enregistrées durant le mois d'avril. Donc ce n'est pas uniquement la PNC.
Il faut savoir que ce rapport mensuel est partagé avec les autorités gouvernementales. Et donc c'est un rapport, c'est vrai que nous rendons public, mais auparavant, avant de la rendre publique, ce rapport est vraiment présenté à différentes autorités gouvernementales pour partager avec eux un peu ces tendances et puis mettre avec eux le doigt sur justement là où viennent ces violations des droits de l'homme. Et je pense que les autorités, heureusement, tiennent compte de ces remarques. Nous avons vu à plusieurs reprises, le bureau conjoint nous l'a rappelé, que suite à ces rapports, des actions avaient été entreprises par les autorités gouvernementales pour essayer d'endiguer, d'arrêter un peu, ou en tout cas de réduire ce nombre de violations des droits de l'homme sur le territoire de la RDC. Nous espérons donc que, et vous avez vu au cours de cette conférence de presse, je vous ai fait cas des formations de police. Nous avons ici un confrère de la police qui peut vous dire sur l'ensemble du territoire, les formations de la PNC entreprises conjointement avec les autorités de la PNC et la police des Nations Unies pour justement outiller les policiers de toutes les provinces afin qu'elles puissent faire face aux prochaines séances électorales qui sont, comme vous le dites, assez difficiles sur le terrain en termes de gestion même de l'attention sécuritaire. Nous espérons que ces formations vont donner des fruits. En tout cas, les signes que nous avons pu voir du côté de la police des Nations Unies montrent que ces formations portent des fruits et elles vont continuer tout au long de l'année 2016. Donc, c'est ce qu'on peut vous dire. Deuxième question donc à Lubumbashi toujours.
C'est Moïse Kaloulwa pour le compte de la radio et télévision Canal de Vie. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo nous intéresse de très près, d'ailleurs raison pour laquelle nous suivons l'actualité chaque jour. Et souvent la partie est, comme je le disais, de notre pays est en proie aux attaques des groupes armés malgré la présence de casques bleus de la MONUSCO. Y a-t-il pas de stratégie au niveau de la MONUSCO ou dans bien sûr votre structure de collaboration avec les FARDC pour mettre fin aux conflits ou aux attaques à répétition perpétrées par des groupes qui plongent des milliers de familles dans le désarroi? Ces groupes échappent-ils au contrôle de casques bleus?
Avant de répondre à votre question, je vais laisser la parole à l'UNPOL Mbaye, qui est le chargé de communication au niveau de la police des Nations Unies en RDC, qui va vous donner quelques précisions sur justement les actions engagées par la police des Nations Unies pour appuyer donc la PNC de façon plus concrète.
Merci, chers confrères. Ce que je peux ajouter aujourd'hui, nous sommes en train de faire des formations à l'ensemble de la PNC sur toutes les provinces et ces formations sont des formations standards pour toute police qui travaille dans une république démocratique. Aujourd'hui, si vous avez entendu au tout début quand Charles vous donnait les cours que nous faisions, vous verrez que nous nous appesantissons beaucoup sur les droits de l'homme. Et au-delà des cours, nous sommes en train aussi de travailler avec la PNC par des patrouilles conjointes. Nous sommes astreintes à respecter les droits de l'homme et quand on est ensemble, nous tous, nous travaillons à cela. Ce qu'il faudrait dire, ce n'est pas dédouaner la PNC, il faudrait aussi que nous leur trouvions les moyens de faire du maintien de l'ordre sans utiliser d'autres armes. Ces armes qui doivent faire du maintien de l'ordre manquent dans cette République et je pense que nous travaillons, vous avez vu récemment, vous de Lubumbashi, que le chef de la police a été à Lubumbashi, les derniers événements. On a géré ces événements-là en parlant avec le commissaire provincial et ça va continuer pour que cette police-là puisse devenir une police qui respecte les droits de l'homme et je peux dire que c'est en train d'être fait.
Alors votre question, vous parlez un peu, y a-t-il une stratégie militaire MONUSCO et FARDC pour annihiler, si vous voulez, les groupes armés? Sans doute oui, je ne suis pas militaire, je n'ai pas de galon de général, mais je sais que effectivement il y a une stratégie militaire qui a été élaborée depuis de très longues dates, depuis
l'époque où les opérations conjointes devaient commencer, d'ailleurs contre les FDLR, une stratégie militaire conjointe, FRDC MONUSCO avait été arrêtée et devait être déroulée. Je suis sûr que ces stratégies ont été revues, ont été mises dans le contexte local sécuritaire maintenant pour pouvoir être déroulées en temps et heure voulue. Donc c'est tout ce que je peux vous dire parce que j'ai pas vu ces stratégies, même si je suis porte-parole de la MONUSCO, on ne partage pas tout avec nous les civils et vous comprenez pourquoi. Nous allons revenir ici à Kinshasa pour... je vois une main insistante. Dans le couloir, il n'y a pas de main, non?
Alain Mouzi pour la radio SCC. Ce matin, nous avons constaté un mouvement inhabituel ici au siège des Nations Unies. Selon nos sources, le personnel serait en colère contre des propos racistes d'un directeur qui aurait qualifié du personnel local des gorilles. Qu'est-ce que la MONUSCO compte prévoir comme sanction à de tels comportements? Merci.
En réalité, il y a une procédure administrative onusienne qui est gérée depuis donc le siège des Nations Unies à New York. Et vous savez sans doute que dans ce genre de situation, tout comme lors des procès au niveau des tribunaux, on ne commande pas une procédure judiciaire en cours. Et donc, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a une procédure judiciaire qui a été enclenchée au siège des Nations Unies. Et nous allons attendre donc la fin de cette procédure pour éventuellement vous donner les résultats de l'analyse donc de cette procédure-là. Voilà un peu ce qu'on peut dire. J'espère qu'il vous satisfait. On revient ici. Oui, on peut prendre une question là.
Merci. Théodore Ngandou, au compte de Télé 7. Monsieur Charles, au sujet du dialogue politique, l'UDPS vient de poser de nouvelles exigences, ce qui semble bloquer totalement Edem Kodjo. Il est devant une équation à plusieurs inconnus. Bon, alors, on ne sait pas, il propose aujourd'hui un panel de facilitateurs composé de l'ONU, l'OIF, les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Comment la MONUSCO réagit à cette nouvelle exigence de l'UDPS?
L'UDPS a fait effectivement cette requête. Il faut dire, et je l'ai répété à plusieurs reprises ici, que le soutien des Nations Unies ne manquera pas à M. Edem Kodjo dans l'accomplissement de sa mission confiée à lui par la Commission de l'Union africaine. Nous avons eu des interventions multiples, non seulement au niveau des acteurs politiques dans ce pays, mais aussi auprès de M. Edem Kodjo pour le soutenir dans son action. Une action difficile, c'est vrai, parce que, vous l'avez dit, il y a des différences de tonalité au niveau de la classe politique congolaise quant à la marche à suivre dans ce processus politique dans le pays. Nous ne désespérons pas, car le processus est à ses débuts. Nous espérons simplement qu'il y aura un consensus politique, et c'est ce que nous souhaitons, et c'est ce que demande aussi la résolution 2277 quelque part. Nous souhaitons qu'il y ait un consensus politique autour des défis majeurs de cette nation en termes, au terme de ce processus électoral qui devrait être couronné, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, en novembre-décembre de cette année. Nous ne désespérons pas, nous espérons toujours que la mise en place d'abord du comité préparatoire pourra voir le jour très bientôt et qu'ensuite, en tenant compte bien sûr des observations des uns et des autres, nous pourrons engager résolument tous les acteurs politiques qui le veulent sur ce chemin afin de voir un peu aboutir les démarches de M. Edem Kodjo qui reste déterminé, malgré les difficultés, qui reste déterminé donc à continuer son action sur le terrain. Nous allons... Il n'y a pas beaucoup de mains, hein, donc c'est à mieux, ça veut dire que les questions sont bien répondues.
Merci, c'est Charles Kipingani.
Enchanté.
Pour le compte du journal Gouvernance Plus, magazine Congo Central, et désormais www.gouvernanceplus.net. J'aimerais revenir à la situation à la situation politique du pays. Monsieur Charles, j'ai une fois posé une question par rapport à l'avis de la MONUSCO qui insistait mordiqui sur la tenue du dialogue. Et cette même MONUSCO insistait encore sur le respect du délai constitutionnel. On a autrefois dit que la MONUSCO voulait quelque chose de son contraire, vous avez contredit. Mais à l'allure vont les choses, nous sommes tous certains que nous tendons lentement et sûrement vers un glissement déjà approuvé. Alors, Nous aimerions savoir avoir l'avis de la MONUSCO qui soutient et le dialogue, et la tenue du dialogue, et le respect du délai constitutionnel qui visiblement est impossible.
Le groupe, un groupe des experts en matière d'élections est passé récemment, des Nations Unies est passé récemment donc ici en RDC, a rencontré non seulement les acteurs politiques, la CENI et différentes autres instances de la société civile. Et selon ce qu'il semble dire en filigrane, c'est que même si les jours sont comptés, ce délai constitutionnel peut être encore respecté s'il y a une volonté vraiment de le faire. Moi, je ne peux que m'en tenir au point de vue officiel des Nations Unies. Et le point de vue officiel des Nations Unies dit ceci. À travers la résolution 2217, à travers ce que Ban Ki-moon lui-même dit et à travers ce que des groupes d'experts comme ça des Nations Unies disent, effectivement, nous pensons qu'il y a une nécessité pour les acteurs politiques de se parler entre eux. Cela pourrait déboucher éventuellement sur un consensus. De quelle dimension sera ce consensus, nous ne le savons pas. Mais lorsqu'on se parle, on arrive toujours à une sorte de compromis au regard du contexte politique en cours. Vous avez parlé de glissement. Nous n'avons pas utilisé, nous, le terme de glissement dans notre langage onusien, dans le langage des Nations Unies. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que si le dialogue se fait, il y aura forcément une feuille de route politique qui rassemblera un certain nombre d'acteurs, nous le souhaitons, la majorité en tout cas, mais au-delà de ça, j'avoue que, effectivement, plus on traîne, plus tous ces délais que nous souhaitons voir respectés seront difficiles à respecter, j'en conviens avec vous, mais en se mettant effectivement au travail dès que possible, je pense que on ne peut pas dire que ces délais ne pourraient pas être respectés dans la mesure où, comme je l'ai dit, un certain nombre d'experts du système des Nations Unies, après consultation et après avoir rencontré les autorités et de la CENI et d'autres instances ici, semblent dire que ce délai pourrait être encore respecté. Voilà un peu ce que je peux dire. Peut-être que nous allons prendre une question à Lubumbashi avant de revenir ici, où l'heure est comptée. Je sais qu'il nous reste 2 minutes avant le journal de Radio Okapi. Lubumbashi, une courte question peut-être.
Merci. Merci beaucoup. Je serai très bref. Edouard Kankou pour le compte de Nyota Télévision. Le cas Moïse Katumbi, l'opposant Moïse Katumbi, pour ce qui est de sa sécurité. Ici à Lubumbashi, on accuse la MONUSCO de faire du dossier Katumbi son dossier en apportant la protection à M. Moïse Katumbi. Que répondez-vous à ceux qui font ces accusations par rapport à la protection de M. Moïse Katumbi par les éléments de la MONUSCO?
Nous avons été très clairs sur cette question, je crois, mais nous allons nous répéter. Les Nations Unies n'ont pas un mandat de protection des hommes politiques, des leaders politiques, mais dans le cadre plus général des mandats qui sont les nôtres, notamment dans le cadre de la protection des civils, nous pouvons éventuellement apporter assistance à qui que ce soit. Pas seulement à monsieur X, Y ou Z, quels que soient les bords politiques, s'il y a effectivement une nécessité de protection d'une personne donnée dans un contexte donné, oui, nous devons agir parce que c'est notre mandat. Cela dit, vous savez très bien que pour ce qui est de la protection spécifique des leaders politiques, ou que ce soit, même en dehors de la RDC, il nous faut un feu vert du Conseil de sécurité que nous n'avons pas pour l'instant. Je crois que cela répond très clairement à votre inquiétude ou à votre préoccupation. Et je vois que pour une fois, nous sommes au terme de cette conférence de presse. Il est 12h dans quelques secondes. Je remercie les auditeurs et les auditrices de Radio Okapi qui nous ont suivis en direct, bien sûr, sur leur station de radio préférée, la radio de référence qu'est Radio Okapi. Je remercie les collègues journalistes de Lubumbashi qui, pour la première fois, participent à cette conférence de presse en direct avec nous, ainsi que tous les journalistes ici à Kinshasa. Bonne semaine à tous et à toutes et à la semaine prochaine.